Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
J'ai les yeux fixés sur le site du Haaretz. Haaretz, c'est le grand quotidien qui pourrait être comparé au monde israélien. Et dessus, on voit deux visages, celui de Benjamin Netanyahou et celui de Benny Gantz, son principal opposant, avec 35 sièges pour chacun d'entre eux. Alors, a priori, on pourrait les croire à égalité, oui, mais en réalité, comme il s'agit d'une élection législative avec une formation de coalition, on voit juste en dessous Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah fêter leur victoire. Alors, parle-t-il trop tôt? Eh bien, on va en parler en compagnie d'un historien, Jean-Pierre Filiu. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques semaines « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », publié aux éditions de La Découverte, un livre qui ne sera probablement pas démenti par les réactions de cette élection. Voilà, je m'avance, Jean-Pierre Filiu, et d'ailleurs, j'aimerais à ce sujet avoir votre analyse des résultats qui sont quasi définitifs.
Oui, effectivement, la nuit a été très longue en Israël. C'est un système à la proportionnelle intégrale, mais avec un seuil de 3,25%, donc l'équivalent de 4 sièges à la Knesset, comme ticket d'entrée.
La Knesset, c'est le Parlement israélien,
donc 120 membres. Donc, avec les chiffres quasi définitifs dont on dispose, Netanyahou a une coalition virtuelle de 65 députés sur 120, donc effectivement semble être assuré de pouvoir constituer le prochain gouvernement et d'obtenir ainsi un cinquième mandat.
Continuons sur l'analyse de ces résultats avec, pour Benny Gantz, le principal opposant à Benjamin Netanyahou, un score équivalent de 35 sièges, puisque là on est en dehors de toute coalition possible. Qui est Benny Gantz et ce score est-il un bon score?
Oui, c'est effectivement un bon score. Donc Benny Gantz, ancien chef d'état-major de Netanyahou, qui a créé la surprise en entrant en politique il y a seulement quelques mois, et en constituant donc une alliance bleu et blanc, ce sont les couleurs du drapeau israélien, avec deux anciens ministres de Netanyahou et un ancien chef d'état-major, donc un bloc de dissidents de la coalition de l'ancien Premier ministre, constitué autour de vétérans de l'appareil sécuritaire qui voulaient donc offrir une alternative à la fois crédible en termes de défense d'Israël et, beaucoup plus important, qui soit honorable en termes d'éthique politique. Aucun des barons de cette coalition n'ayant été mêlé dans les affaires qui ont largement terni le crédit de Netanyahou. Netanyahou est l'objet d'une procédure de mise en examen, a été lancée contre lui dans trois affaires très graves il y a quelque temps par le procureur général d'Israël. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce sont des faits de corruption, de fraude et d'abus de biens sociaux dans le cadre de ses fonctions de Premier ministre. Donc Gantz réussit son pari d'égaler le Likoud, donc le parti du Premier ministre, chacun avec 35 sièges. En revanche, eh bien, ses partenaires lui font défaut, notamment du fait de l'effondrement du Parti travailliste, qui passe de 18 à 6 sièges, donc qui perd 2/3 de sa représentation parlementaire. Parti travailliste, donc il faut rappeler qu'il était hégémonique pendant les 30 premières années de l'État d'Israël.
Et du coup, on se dit que la scène politique israélienne est finalement assez semblable, dans un certain sens, à toutes les autres scènes occidentales. On observe, par exemple, une victoire de la droite avec un centre de gravité aujourd'hui de la vie politique israélienne qui pourrait être un centre de gravité marqué par des partis populistes, un effondrement de la gauche et des nouveaux entrants qui n'existaient pas, comme vous l'avez rappelé Jean-Pierre Filiu il y a quelques mois, qui sont aujourd'hui centraux, là en l'occurrence Benny Gantz et son parti Kaol Lavan.
Oui, alors effectivement, on a une fragmentation de la représentation parlementaire qui est plus importante en Israël du fait du mode de scrutin, mais une tendance qu'on constate dans la plupart des systèmes démocratiques, avec une prime au populisme, et surtout des campagnes électorales extrêmement frustrantes, où le débat démocratique est dégradé, tourne aux attaques personnelles, avec une importance croissante des réseaux sociaux. Et là-dessus, Netanyahou disposait d'un avantage stratégique parce qu'il a investi de longue date les réseaux sociaux. Ses comptes personnels comptent plus de 5 millions d'abonnés dans un pays où il y a un peu plus de 6 millions d'électeurs. Donc même s'il a beaucoup d'abonnés hors d'Israël, c'est quand même considérable. Et il avait pris soin d'éviter toute législation sur l'usage électoral des réseaux sociaux, ce qui lui a permis le jour même du scrutin d'avoir un chat sur Facebook avec ses partisans et de commenter sur Twitter en live les différents développements de la campagne, y compris avec des appels à aller voter.
Une campagne très dure, par ailleurs, où à peu près rien n'a été épargné à Benny Gantz, qui était l'ennemi à abattre pour Benjamin Netanyahou.
Effectivement, campagne très dure, car toujours pour Netanyahou, et son succès fort probable d'aujourd'hui le prouve, la meilleure défense a toujours été l'attaque. C'est quelqu'un d'extrêmement pugnace. Je crois que son passage dans les forces spéciales israéliennes pendant 5 ans, où il a mené des actions de commando tout à fait audacieuses et risquées, a vraiment donner cette tendance à sa personnalité et à son style en politique. C'est quelqu'un qui s'est battu jusqu'à la dernière minute de la dernière heure, du dernier jour, non seulement de la campagne, mais du vote. Effectivement, mobilisation des réseaux sociaux, notamment par les bots, donc ces robots électroniques qui animent de vrais faux comptes qui ont diffusé les pires horreurs sur Benny Gantz, dont on peut dire parfois à juste titre qu'il est une personnalité terne, mais dont la moralité est absolument irréprochable. Alors que, je le rappelle, Netanyahou, triple procédure de mise en examen pour des affaires de corruption dans l'exercice de ses fonctions. Mais Netanyahou s'en est sorti par une pirouette en disant à ses partisans qui ne demandaient qu'à l'entendre qu'il y avait un vaste complot entre les Arabes, la gauche, la presse, la police, la justice pour l'abattre, et pour l'abattre d'abord parce qu'il serait le meilleur dirigeant d'Israël, et ça a été le joker des derniers jours de cette campagne, parce que il refuse de rendre les territoires occupés de Cisjordanie, ce que les annexionnistes appellent la Judée-Samarie, et quelques jours avant le vote, il a franchi une nouvelle ligne rouge en se déclarant sur le principe acquis à l'annexion des colonies, non seulement les blocs de colonies, mais les colonies isolées de Cisjordanie.
Alors là, il faut rappeler, Jean-Pierre Fidu, quelle est la géographie d'Israël et nous expliquer que signifie cette déclaration de Netanyahou si on la replace dans l'évolution de la carte d'Israël depuis la création de l'État, depuis les frontières de 67. Bref, qu'est-ce que ça signifie ?
Donc, en 1948, l'État d'Israël, qui a été fondé quelques mois plus tôt, en pleine guerre avec tous les États arabes voisins, s'installe dans des frontières lignes de cessez-le-feu qui représentent 77% de la Palestine auparavant sur mandat britannique. Après la guerre de 1967, le même État d'Israël occupe Jérusalem-Est et la Cisjordanie, c'est-à-dire 22% de cette Palestine historique, et la bande de Gaza, 1% de cette Palestine historique. En 2005, Ariel Sharon décide le retrait de la bande de Gaza, tandis que Jérusalem-Est a été annexée, annexion qui a été reconnue de fait par l'administration Trump lorsqu'elle déplace l'an dernier son ambassade à Jérusalem. Jérusalem-Est, on a 300 000 Palestiniens, 200 000 colons. Et puis, il y a la Cisjordanie, où là, on a 400 000 colons, qui, effectivement, est de plus en plus grignoté. C'est-à-dire que le territoire palestinien de Cisjordanie est en fait un archipel entouré d'implantations juives et de barrages de l'armée israélienne. Donc, à supposer qu'il y ait une volonté d'aller vers un retrait et donc la fameuse solution à deux États entre Israël et la Palestine, concrètement sur le terrain, chaque jour qui passe le rend encore plus difficile, du fait de ces colonies isolées, au milieu d'une population palestinienne, alors qu'on aurait pu imaginer, si la volonté était au rendez-vous, que les blocs de colonies auraient pu être annexés à Israël en contrepartie de compensation territoriale. Mais dans cette nouvelle Knesset, on a au maximum 20 députés sur 120 qui sont officiellement, ouvertement favorables à la solution des deux États.
Mais alors ça veut dire quoi concrètement, Jean-Pierre Fidu? Qu'est-ce qui pourrait se dessiner? Alors il faut dire aussi aux auditeurs que certaines de ces colonies sont en réalité des villes, des grandes villes, des banlieues de Tel Aviv, qu'il y a donc certains habitants qui sont là pour des raisons idéologiques, religieuses, d'autres qui sont là tout simplement parce que le prix de l'immobilier y est largement moins cher pour des raisons que l'on peut imaginer. À quoi pourrait ressembler ce nouvel Israël qui est finalement en phase avec la politique de Benjamin Netanyahou, puisque c'est son cinquième, ce serait, je mets ça au conditionnel, son cinquième mandat, Jean-Pierre Fignon?
Donc effectivement, Netanyahou, c'est l'homme des faits accomplis. Hein, et c'est pour ça que sa déclaration sur l'annexion est étonnante, parce que il préfère changer généralement la situation sur le terrain accomplir des percées symboliques. S'il l'a fait, c'était d'abord parce que les élections qu'il a très probablement gagné était très serré et que donc il a choisi de manière très consciente de siphonner une partie de l'électorat des colons et de l'extrême droite. Il a d'ailleurs tellement bien siphonné que le parti qui prétendait les représenter, la nouvelle droite, disparaît du Parlement, de même qu'un parti un peu périphérique, Zehout, Identité, qui prônait à la fois l'expulsion des Palestiniens et la légalisation du cannabis, ne parvient pas non plus à rentrer à la Knesset. Donc il siphonne leur voix, mais il reprend aussi leur programme, ce qui veut dire qu'on a une dérive encore plus à droite et à l'extrême droite par rapport au précédent gouvernement. C'est une constante depuis le retour de Netanyahou au pouvoir en 2009. Il avait déjà été au pouvoir de 1996 à 1999. Chaque élection, chaque coalition, chaque gouvernement est encore plus marqué à droite et à l'extrême droite. Et là, je pense que, indépendamment des considérations sur les territoires une éventuelle paix avec les Palestiniens, il y a un hiatus avec la sociologie israélienne, qui est moins radicalisée, sur les questions de société, les questions économiques, pencherait plutôt vers le centre, mais c'est là où on trouve le problème de l'offre politique. Et ça nous renvoie à l'équation dans d'autres démocraties, c'est qu'à partir du moment où l'offre politique est clairement populiste et où l'alternative éventuelle se positionne sur ce créneau populiste plutôt que de le condamner et de se poser en alternative réelle sur tous les plans, eh bien c'est toujours l'original qui triomphe de la copie et le populisme qui l'emporte sur ceux qui voudraient braconner sur ces terres.
Mais alors, si on continue sur la question des colonies, puisqu'elle est essentielle, c'est la question de la terre et donc c'est l'obstacle à la paix entre Palestiniens et Israéliens aujourd'hui, l'un des obstacles, en tout cas Jean-Pierre Fidu, cela signifierait que ces colonies, alors il faut imaginer un entrelac extrêmement complexe sur une surface assez réduite, de routes, de zones, il y a des zones A, B et C, certaines sont sous contrôle conjoint des Palestiniens et des Israéliens, d'autres sous contrôle unique des Israéliens, bref, on aurait une annexion de fait d'un certain nombre de colonies avec les routes qui y conduisent. Et pour le reste, pour les villages et les villes palestiniennes, que deviendrait-elle si on considère, comme vous le faites, que la solution à deux États est de moins en moins improbable?
Elle est chaque jour de moins en moins improbable et pourtant elle reste la seule jouable si on veut aller à la paix. Il est évident que si on s'en écarte, eh bien d'autres configurations sont possibles. D'ores et déjà, il faut bien comprendre la distinction fondamentale entre les hommes et la terre. C'est-à-dire que tous ces colons sont des citoyens israéliens. Ils ont participé aux élections. Ils représentent un peu plus de 10% à la fois de la population israélienne et un peu moins de 10%, excusez-moi, de la population israélienne et de l'électorat. Et donc, on aura mécaniquement à peu près 10 ou 12 colons qui seront élus à la Knesset. Donc, c'est déjà un poids très fort à l'encontre de toute forme de retrait. Du côté palestinien, il faut rappeler qu'on a la Cisjordanie, mais on a aussi Gaza. On a en Cisjordanie 2,5 millions de Palestiniens, à peu près 2 millions à Gaza, et puis je rappelle les 300 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, mais ils sont dans des identités compartimentées, dans des territoires complètement étanches. Donc d'un côté, on a une fluidité dans les différents espaces israéliens, qu'ils soient sur territoire israélien ou en territoire palestinien occupé, alors que du côté palestinien, ces multiples barrières, dont le mur qui enserre la Cisjordanie n'est que la plus forte illustration, eh bien, les Palestiniens, eux, sont privés de cette fluidité et donc n'arrivent pas à accéder à une forme de représentation intégrée. C'est leur principale faiblesse, au-delà même de l'expansion territoriale.
Qu'est-ce que Netanyahou envisage pour ces Palestiniens? Alors, vous avez rappelé, Jean-Pierre Fidu, qu'il y avait en réalité trois zones qui sont dans des situations bien différentes. Jérusalem-Est avec une porosité avec Jérusalem-Ouest, Gaza avec là un blocus, et puis la Cisjordanie qui est une solution mixte. Que veut-il faire? Qu'envisage-t-il pour la coexistence entre juifs et palestiniens, pour les Palestiniens de Cisjordanie?
Alors, il est très clair que Netanyahou, depuis 2009, n'a jamais fait la moindre proposition de paix, alors qu'il changeait avec méthode la situation sur le terrain. Donc, je le vois plutôt aller dans ses faits accomplis, mais on pourrait imaginer qu'il sanctionne une annexion. Il y a été encouragé par l'administration Trump par rapport au territoire du Golan, territoire syrien occupé.
8h21, et si je devais traduire le titre du Haaretz aujourd'hui, Haaretz, le grand quotidien de centre-gauche israélien, je dirais que Netanyahou a aujourd'hui un boulevard ou une rue dégagée pour former un gouvernement. Il a obtenu un score comparable en termes de nombre de sièges à son principal concurrent Benny Gantz, 35 sièges chacun, mais la coalition qu'il va former, il s'agit de législatives, il faut former des coalitions au sein de la Knesset, va rassembler probablement 65 sièges, et la Knesset comportant 120 membres, eh bien le calcul est vite fait. Netanyahou est sur le point d'entamer un cinquième mandat. On en parle avec l'un des meilleurs connaisseurs de la région qui a consacré un livre à Netanyahou, Jean-Pierre Fidu. Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris et vous avez donc publié « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste » publié aux éditions La Découverte. Des résultats donc qui semblent se confirmer et peut-être là aussi une sorte de comparaison avec la vie politique palestinienne, puisqu'on a vu que Netanyahou s'était fait réélire, puisque c'est probablement ce qui va se produire, il va être renommé à nouveau sur la promesse d'annexer les colonies de Cisjordanie. Que se passe-t-il du côté palestinien pendant ce temps-là, Jean-Pierre Fillieu?
Pendant ce temps-là, en termes politiques, il ne se passe rien, vu qu'il n'y a eu aucune élection dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza depuis 2006. Élection alors législative qui avait été remportée par le Hamas, ce qui a conduit à une fracture entre la Cisjordanie, contrôlée par le président Mahmoud Abbas et son parti, le Fatah, d'une part, et le Hamas, tenu d'une main, la bande de Gaza, tenue d'une main de fer par le Hamas depuis 2007. Donc plus de vie politique palestinienne, concrètement. Et des intentions de vote dans des sondages qui n'ont aucune application, donnant une majorité au Fatah à Gaza parce qu'on y déteste le Hamas, et une majorité au Hamas en Cisjordanie parce qu'on y déteste le Fatah, tout simplement parce que les Palestiniens ne supportent plus les deux partis qui ont imposé leur domination.
Pourquoi?
Parallèle. Parce que essentiellement dans les deux cas, même si c'est sous couvert d'un programme islamiste à Gaza et sous couvert d'un soutien à fond perdu par la communauté internationale, on a des systèmes policiers, des systèmes de répression de la population palestinienne. Donc tout opposant étant accusé d'être terroriste ou espion, et donc on a une société civile palestinienne qui essaie de s'organiser, qui a beaucoup de mal du fait de la répression, et j'insiste, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, ce qui fait qu'à mon sens, comme historien ayant travaillé sur ces mouvements sur la longue durée, la tendance que je vois qui serait favorable à la non-violence comme arme stratégique, pas non-violence comme comme arme du faible et choix par défaut, eh bien, elle n'arrive pas à se traduire en termes politiques parce qu'elle est tout à fait étouffée. Et j'insiste, hein, aussi bien par Mahmoud Abbas en Cisjordanie que par le Hamas dans la bande de Gaza.
Est-ce que ça veut dire, alors c'est une question compliquée Jean-Pierre Fidu, mais qu'au travers des différentes intifadas, qu'au travers des différentes tentatives de s'en prendre au pouvoir israélien, je parle de manière alors ou bien violente ou bien de manifestation, eh bien à terme les Palestiniens ont été perdants à chaque fois. Est-ce qu'il est possible de faire en quelque sorte une évaluation de ce qui s'est produit, pas en termes moraux, je sais que c'est toujours compliqué de part et d'autre, surtout sur une question aussi sensible que le conflit israélo-palestinien, mais enfin, si on tentait de faire un bilan, que dirait-on ?
Ah ben les Palestiniens sont les perdants absolus, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et en même temps, chaque fois qu'ils ont pu faire mentir cette tendance lourde, c'est quand ils ont eu recours à la non-violence. Le début de la première intifada en 1987, et il y a deux ans, pendant l'été 2017, quand ils ont fait reculer Netanyahou sur la question des lieux saints musulmans à Jérusalem, ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, où Netanyahou voulait installer des portiques de sécurité après un attentat, et où, pendant des semaines, une mobilisation pacifique de milliers, de dizaines de milliers de personnes à l'extérieur de l'enceinte, où ils refusaient d'entrer tant que ces dispositifs étaient maintenus, eh bien, amené Netanyahou discrètement, mais sans aucun doute, à reculer. Donc on voit que la non-violence pourrait être une arme stratégique pour un combat palestinien qui s'apparenterait dès lors plus au mouvement des droits civiques, par exemple aux États-Unis dans les années 60. Mais pour cela, il faudrait une direction palestinienne digne de ce nom. Or, non seulement elle est divisée comme jamais entre le Hamas et le Fatah, mais le président Abbas à Ramallah est totalement en fin de course. Il enchaîne des discours fleuves aux dérives complotistes voire antisémites de plus en plus marquées, et ce discrédit de la classe politique palestinienne sur fond de division interpalestinienne aujourd'hui interdit toute expression d'une offre palestinienne qui pourrait éventuellement entrer en écho avec une offre israélienne.
Et le shaming, alors je vais traduire ce terme, mais l'idée qu'il faut faire honte, discréditer Israël sur la scène internationale. Il y a par exemple une proposition de boycott qui est faite. Il y a aussi d'autres tentatives d'ONG. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça produit des effets, surtout avec un dirigeant comme Netanyahou, Jean-Pierre Fidu ?
Netanyahou est arrivé à banaliser une forme d'amalgame entre les défenseurs des droits de l'homme et les opposants résolus non seulement à Israël, mais même au projet sioniste. Donc, c'est ce que j'essaie de décrire dans mon livre sur l'ennemi intérieur, la cinquième colonne.
Main basse sur Israël, aux voilà. Éditions de La Découverte.
Et donc, cette façon de construire un ennemi et de le rendre, au fond, puissamment mobilisateur pour sa propre base. Or, les menaces très hétérogène que Netanyahou amalgame ainsi, d'abord ne sont absolument pas coordonnées entre les projets des uns et les projets des autres, mais il arrive, lui, à leur donner sens, non pas pour leur donner de l'efficacité, mais pour justement rendre cohérent, mobiliser sa propre base. Donc il a été extrêmement efficace et extrêmement habile, faut le dire, à cet effet.
Ce qui veut dire que Netanyahou, qui a trois chefs d'accusation aujourd'hui pour corruption sur le dos, il n'est pas le seul, hein. C'est une classe politique israélienne qui est largement corrompue. Il y a un ancien Premier ministre qui a été sous les verrous, Ehud Olmert. Lorsque l'on voit cela, Jean-Pierre Fidu, eh bien, il s'est notamment défendu en disant que c'était tout simplement une visée des ennemis d'Israël pour tenter de le mettre hors d'état de nuire, puisque bien entendu, il est seul à pouvoir défendre Israël.
Oui, ça c'est son discours, mais il faut quand même rappeler les faits. Donc son prédécesseur, Ehud Olmert, a effectivement purgé une peine de 18 mois de prison ferme, mais pour des faits de corruption commis quand il était maire de Jérusalem. Là, on parle de faits extrêmement graves dans l'exercice des fonctions de Premier ministre, hein, avec à la fois des cadeaux en nature très conséquents, mais surtout des échanges de faveurs permettant à Netanyahou de contrôler directement ou indirectement des médias, notamment des sites d'information électronique. Bon, Netanyahou est un obsédé du contrôle et c'est un obsédé des réseaux sociaux qui a prouvé au cours de cette campagne que les réseaux sociaux pouvaient représenter une arme électorale redoutable. Donc, en 1977, Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre, démissionne du fait de la simple révélation de l'existence d'un compte en devise de son épouse aux États-Unis. Ce compte était absolument légal, mais il n'avait pas été déclaré au fisc israélien. Donc Rabin démissionne. Aujourd'hui, Netanyahou, avec rapport de 57 pages d'accusation du procureur général appuyé sur 60 pages de preuves, dit que tout ça, c'est un complot de la gauche, de la presse, des Arabes, de la justice, de la police. Mais bon, gardez en tête que, quelle que soit la coalition qu'il constitue, il a de bonnes chances d'en constituer une solide, le jour où il voudra, et ce sera sa priorité absolue, faire passer une loi d'auto-blanchiment, ça peut quand même coincer et grincer.
Du coup, on se pose deux questions. La première, Jean-Pierre Filu, comment peut-on voter pour Netanyahou, puisque ici, il apparaît comme un chef d'État largement corrompu, puisque on pense également que cet homme n'est pas à même de faire la paix. Et là, on a besoin que vous nous expliquiez ce qui peut aujourd'hui se dérouler en Israël dans l'esprit donc des électeurs israéliens qui ont apporté leur suffrage à Netanyahou. Alors pas de manière majoritaire, puisqu'il s'agit donc d'une législative, mais qui vont lui permettre, par le biais d'une coalition, de devenir à nouveau Premier ministre.
Déjà, il améliore le score de son parti, hein, ce qui veut dire qu'avant, il avait plutôt un quart des voix, et là, il s'achemine vers un petit tiers. Et puis, il y a le fait qu'il martèle d'abord des bons indicateurs économiques qui sont indéniables au niveau des agrégats, la croissance très dynamique, l'inflation très faible, le chômage très faible. Même si Israël connaît des inégalités sociales et un taux de pauvreté très inquiétant. Et puis, il est son propre ministre des Affaires étrangères. C'est quelqu'un qui a été diplomate de carrière. Et donc, il met en scène des tournées spectaculaires à l'étranger. Et donc, les Israéliens, un pays isolé dans une région qui leur est largement hostile, voient leurs dirigeants échanger des preuves d'amitié, de complicité, d'intimité dans la même semaine avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Parce qu'on sait que l'administration américaine est très engagée au profit de Netanyahou. On oublie que la Russie de Poutine lui a apporté également un soutien.
Comment expliquer cela ? Parce que la Russie, et avant l'Union soviétique, n'a pas toujours été pro-israélienne.
Mais elle, en tout cas, Poutine a toujours été pro-Netanyahou. Poutine, qui est quelqu'un que les principes démocratiques n'étouffent pas, a vu au fond dans Netanyahou, avec ses manières brutales, ses campagnes contre les ONG, sa relation extrêmement complexe au droit international, au fond, quelqu'un avec qui il pourrait bien s'entendre, et ne pas oublier que il y a à peu près un million sur à peu près 8 millions d'Israéliens, donc un million d'Israéliens d'origine post-soviétique, hein, donc un million d'Israéliens russophones qui sont désormais bien intégrés dans cette société israélienne où ils sont arrivés il y a une génération et qui sont très marqués à droite, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois plutôt laïcs, peu pratiquants et en même temps très anti-socialiste, très anti-gauche, et c'est un secteur central de l'électorat israélien qui a joué pratiquement à plein en faveur de Netanyahou.
Il faut dire aussi que sur le plan économique, alors en 2011, il y a eu un mouvement comparable à celui des Gilets jaunes, alors toute chose égale par ailleurs d'ailleurs, et au début la révolte portait sur le cottage cheese, autrement dit du fromage blanc, les Israéliens en consomment beaucoup et les prix de ce fromage blanc avaient considérablement augmenté, du coup il y a eu une protestation liée aussi au prix du logement en Israël et les conséquences de cette protestation a été une augmentation significative des inégalités depuis, avec une politique extrêmement libérale de Benjamin Netanyahou.
C'est toujours, au fond, hein, la même logique. Est-ce qu'on arrive mieux à mobiliser un peuple en lui proposant un projet de promotion individuelle ou un projet de réforme collective? Visiblement, le chacun pour soi fonctionne mieux, et il n'y a pas qu'Israël où c'est le cas. Et puis on a de puissants mythes mobilisateurs, le mythe de la Startup Nation, l'idée qu'Israël, qui effectivement est tout à fait en pointe hein, dans les nouvelles technologies, c'est son premier poste d'exportation avant les armes, qui est courtisé par les investisseurs internationaux, et puis ce Netanyahou qui un jour mentionnait Trump et Poutine, mais l'autre jour il est au Brésil, en Inde, en Chine, il reçoit les uns et les autres, et évidemment les dirigeants illibéraux d'Europe, Orban, Salvini et autres, se pressent à ses côtés. Et bon, j'étais évidemment dans le cadre de cette campagne abonné à tous les comptes de Netanyahou comme de Gantz. Il faut voir que une bonne partie des messages qu'il adressait à ses partisans renvoyaient à l'international, à cette puissance internationale, à cette projection internationale. Mais de même que la bonne santé économique doit être étudiée au regard des inégalités, de même ces succès internationaux de Netanyahou ne doivent jamais faire oublier que la situation à ses frontières directes, elle s'est dégradée.
Alors justement, on va faire un tour d'horizon. Et tout d'abord, si l'on regarde la frontière avec la Syrie, il y a un plateau montagneux, comme la plupart des plateaux d'ailleurs, le plateau du Golan, et ce plateau a été l'un des arguments de campagne. Que s'est-il passé sur le Golan et qu'a dit Donald Trump, le dirigeant américain, au sujet de ce lieu?
En effet, le plateau du Golan, territoire syrien, est occupé par Israël depuis 1967. Et il y a un accord de cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU depuis 1974 que le régime Assad, aussi bien le père que le fils, ont respecté de manière assez scrupuleuse. La Knesset, donc le Parlement israélien, avait voté l'annexion de ce plateau qui avait été condamné par l'ensemble de la communauté internationale, y compris les États-Unis. Il faut savoir que Netanyahou lui-même avait mené des médiations secrètes avec Bachar el-Assad, envisageant la restitution de la plus grande partie du Golan dans le cadre d'un accord de paix avec Israël. Alors effectivement, la crise syrienne a rendu tout cela relativement obsolète, et Donald Trump, donc tout récemment, a reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan. C'est gravissime du point de vue du droit international. On voit bien que ça légitime a posteriori l'annexion de la Crimée par la Russie, voire d'autres processus d'annexion. Mais surtout, au-delà du Golan, ça légitime le principe même de l'acquisition de territoire par la force, alors qu'au cœur du droit international, on a le refus de cette acquisition et de ces annexions.
Bon, on pourrait dire que la différence avec la Crimée, Jean-Pierre Fidu, c'est que là, on est face à deux pays qui sont, disons, des pays plutôt ennemis, qui pourraient être disposés à se faire la guerre avec des incidents de frontières. Est-ce que le Golan n'est pas une protection importante pour le territoire israélien ?
Oui, mais c'est aussi une protection importante pour le territoire syrien, par définition. Donc, qui tient l'un fait peur à l'autre. Mais et du point de vue du droit international,
Israël n'a pas mené récemment d'opérations en territoire syrien, sauf pour répondre à
Israël,
même Bachar el-Assad.
Non, Israël mène pratiquement chaque semaine des opérations en territoire syrien, qui, dans l'écrasante majorité des cas, sont des opérations de sa propre initiative pour contrer soit la présence iranienne, soit des transferts d'armes. Donc, encore récemment, l'establishment militaire israélien disait qu'ils avaient eu une centaine d'opérations de ce type dans les dernières semaines. Quand on est à Damas et qu'on sait que on vit à l'ombre du Golan et que les Israéliens y campent, c'est pas forcément très rassurant. Il est vrai que les Syriens ont mille autres soucis à se faire depuis. Mais donc, par définition, si un plateau est une garantie pour l'un, il est aussi une vulnérabilité pour l'autre. La réalité du droit international, c'est que le Golan est un territoire syrien.
Vous avez prononcé un mot, le mot d'Iranien et le mot de Hezbollah, puisqu'en fait c'est la présence du Hezbollah. Il y a aujourd'hui une présence du Hezbollah à la frontière syrienne, à la frontière libanaise. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas de raison évidente pour que les Iraniens soient présents là. Il n'y a pas d'intérêt stratégique ou là, pour le coup, de protection du territoire iranien qui se déroulerait aux frontières israéliennes. Donc, il faut expliquer, Jean-Pierre Filu, pourquoi il y a cette présence du Hezbollah aux frontières israéliennes qui est perçue comme étant une grande menace par la population israélienne.
C'est une grande menace et cette menace, Netanyahou l'a laissée se développer. L'expansionnisme des gardiens de la révolution, donc les troupes de choc de la République islamique d'Iran, est avéré. Il est avéré en Syrie où ils ont été vraiment les supplétifs du régime d'Assad. Il est avéré en Irak, où j'étais encore tout récemment, où les barrages d'unités avec des portraits de Khamenei sont partout. Donc on a aujourd'hui une continuité territoriale de Téhéran jusqu'à la Méditerranée qui est tout à fait unique dans l'histoire. Pour retrouver une présence perse de cette ampleur, il faut remonter avant l'islam. Donc on n'est pas du tout dans la reconnaissance d'une puissance régionale, mais bel et bien dans une expansion. Cette expansion, Netanyahou l'a laissé s'opérer. Parce qu'il était plus obsédé par la menace du nucléaire iranien. Il avait mené une campagne très dure contre l'administration Obama, contre l'accord sur le nucléaire. Il a obtenu de son grand ami Donald Trump l'annulation de cet accord. Donc, ce qui est frappant avec le discours très anxiogène de Netanyahou sur les menaces qui entourent Israël, c'est qu'il a combattu des menaces dont je ne nie pas l'intensité, mais qui restaient virtuelles, alors que les menaces réelles, comme l'expansion iranienne en Syrie, comme l'implantation de Daesh dans le Sinaï, à la frontière sud d'Israël, eh bien, il les a laissés se développer.
Si l'on essaye de faire maintenant une évolution historique de l'État, puisque vous évoquiez les différents problèmes avec lesquels Netanyahou se débat aujourd'hui, qui sont des problèmes de corruption, et dans le livre que vous avez consacré à Benjamin Netanyahou, vous rappelez sa filiation au sens propre, avec son père qui était historien, filiation au sens intellectuel, avec une histoire de la droite dure israélienne, qui est notamment incarnée par un personnage dont vous allez nous rappeler le souvenir, Jabotinsky.
Oui, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la prise de contrôle d'Israël par les vaincus du sionisme, les minoritaires du sionisme. Hein. Donc Jabotinsky, qui est mort en 1940, incarnait le sionisme de type révisionniste, un sionisme qui s'opposait au sionisme travailliste de Ben Gourion sur les questions sociales. Hein. Il est très économiquement très libéral, mais aussi sur les rapports avec les Arabes. La théorie révisionniste, pour la simplifier, c'est celle du mur de fer. Il n'y aura pas de paix avec les Arabes, il y aura un mur avec, si possible, le plus d'Arabes d'un côté et le plus de Juifs de l'autre. On voit que c'est très exactement ce qui se passe quand on voit le mur de la Cisjordanie, quand on voit le mur qui entoure la bande de Gaza, quand on voit le mur de la frontière israélo-égyptienne. Et donc, en 1948, cette tendance du sionisme, elle est vaincue militairement et politiquement, vu que ce sont les milices travaillistes qui constituent la nouvelle armée d'Israël, Tsahal, les forces de défense d'Israël, vu qu'ils obtiennent obtiennent une dizaine de députés, donc déjà sur les 120 de la Knesset. Et en 77, premier retournement avec la victoire du Likoud, déjà, contre Rabin. Et maintenant, avec Netanyahou, qui va en juillet prochain battre le record de longévité de Ben-Gourion à la tête de l'État d'Israël, on a ce que je qualifie de refondation. Hein, le fondateur, c'était Ben-Gourion. Le refondateur, c'est Netanyahou. C'est quelqu'un qu'il faut prendre extrêmement au sérieux parce qu'il a une vision.
Et oui, alors, c'est important d'insister là-dessus, Jean-Pierre Fidu, parce que le personnage n'est pas nécessairement perçu comme étant un personnage important historiquement, et pourtant il marque véritablement une inflexion, le terme est faible, dans l'histoire du pays.
Oui, alors c'est étonnant parce que mes amis israéliens me trouvaient un peu complaisant à l'écart de Netanyahou parce que je le créditais d'une vision. Les résultats d'hier soir et de cette nuit prouvent que cette vision fonctionne. L'inscription d'un cinquième mandat est tout à fait inédite. Cela veut dire que Netanyahou sait parler à ses compatriotes, sait construire une offre politique qui va recueillir la majorité au Parlement et qu'effectivement il crée non seulement des faits accomplis par rapport aux Arabes et aux Palestiniens, mais aussi par rapport à la société israélienne. Il a fait passer en juillet dernier, donc année très symbolique, année du 70e anniversaire de l'État d'Israël, une loi à valeur constitutionnelle, loi sur Israël comme État-nation du peuple juif, c'est son titre. Et donc c'est une loi qui ouvrirait la voie à des discriminations entre juifs et arabes à l'intérieur de l'État d'Israël, alors que Ben-Gourion, dans sa déclaration d'indépendance en 1948, avait proclamé l'égalité des droits entre les citoyens israéliens de toutes origines. Donc effectivement, une refondation.
Oui, c'est-à-dire que, pour le dire en une phrase, on est passé d'un État socialiste, égalitaire, égalitariste même, avec par exemple les kibboutz, ces fermes collective et un pays qui se débattait dans un certain marasme économique, qui parfois était perçu comme étant folklorique sur le plan économique, à un pays qui fonctionne bien économiquement, qui est très à droite et qui est très inégalitaire.
Effectivement, et si vous avez le symbole des kibboutz, il faut savoir aujourd'hui qu'on a l'équivalent, mais du côté évangélique des kibboutz, avec des militants qui viennent des États-Unis, qui viennent de la droite très très dure, qui vont en Cisjordanie occupée, cultiver la vigne sur ce qu'ils appellent la vraie Terre Sainte, et donc qui sont animés de cette flamme messianique, là où effectivement les volontaires des kibboutz étaient plutôt animés d'une flamme internationaliste.
Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, Jean-Pierre Fidu? Bon, les résultats sont quasiment dépouillés, 98% des votes aujourd'hui, 35 sièges pour Netanyahou, mais une coalition, 35 sièges pour son rival Benny Gantz, mais là, pas de possibilité de trouver une coalition, donc formation du gouvernement, et ensuite
Donc c'est le président Reuven Rivlin, le président de l'État, qui est membre du Likoud, mais qui est très hostile à Netanyahou, qui va être contraint et forcé de l'appeler pour constituer ce nouveau gouvernement. Donc on verra combien de temps ça prendra pour avoir une coalition, quel portefeuille, quelle subvention, quelle monnaie d'échange Netanyahou mobilisera. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de contentieux électoraux qui devront aussi être traités, notamment le fait que dans les bureaux de vote de la partie dite arabe d'Israël, les militants, les partisans de Netanyahou avaient installé, étaient porteurs d'un millier de caméras.
Et une dernière éventualité, est-ce que Netanyahou, parce que ça a été plusieurs fois envisagé, pourrait être empêché de gouverner par la justice, parce que il a donc ces trois procédures judiciaires qui aujourd'hui sont en suspens?
Ça paraît tout à fait improbable. Sa mise en examen, si elle est effective, n'interviendra que dans plusieurs mois. Il aura d'ici là constitué fort probablement un gouvernement assis sur une solide coalition. Mais c'est là qu'intervient un nouveau développement que je mentionnais, c'est qu'il voudra faire passer très vite une loi d'auto-blanchiment. Et ça peut ouvrir de nouvelles fractures, y compris chez ses partisans.